C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Eh oui, nous sommes sous la musique de Bill Conti, magnifique musicien qui a composé la musique pour la saga du film de Rocky. Je vous indiquerai deux, trois petits trucs sur les semaines à venir avec Rocky tous les lundis soirs. Petit tour de plateau, tout d'abord, avec un poids lourd de l'équipe du soir, Eric Blanc. Bonsoir, Eric.
Bonsoir.
Ça va?
Ouais, très bien. Mmh. Barça a gagné.
4 à 2, la balance.
C'est plus facile à 10 contre 11.
3-0.
Triplé de Lewandowski, on aura toutes les images dans le journal de Tanguy Le Sévillier. Régis Testelin est dans la place. Bonsoir Régis.
Bonsoir. Bonsoir.
Ça va?
Ouais, je regarde la veste de Rico.
Et alors?
Mais j'adore.
Je le fais rêver, mais bon.
Non, il me fait rêver avec ça.
Mais essayez de m'en occuper.
Elle est unique, il veut pas m'en faire une.
Si, si. Je vais y réfléchir.
Ouais, on va réfléchir. La veste du Dr Love est des plus classiques, mais efficace. Bonsoir docteur, comment ça va?
Il n'y a pas de honte à être heureux, écrivait Albert Camus. Bon, les Parisiens ne sont visiblement pas après leur deuxième titre de champion. C'est profondément regrettable, pardon, mais je pense qu'on va en discuter.
Ils sont pas heureux, ils ont pas tellement fait
vous
tout
les avez vu des milliers, des dizaines de milliers de Parisiens descendre sur les Champs-Élysées dimanche soir?
Non.
Ah bon?
Non.
Et à Milan, il s'est passé quoi?
Hein?
On va en discuter.
Karine Galli, bonsoir Karine.
Bonsoir mémé.
Bon, vous êtes arrivé en fauteuil roulant, ma pauvre Carinette, là.
J'ai une aide médicale exceptionnelle.
Ouais, c'est Chloé. Là, ouais, maquilleuse qui est aussi infirmière.
Elle nous embellit, elle a trouvé une idée lumineuse, une chaise roulante qui devient un fauteuil roulant.
Okay. Elle a qu'à emprunter à l'EHPAD.
C'était vraiment très intéressant.
Le boulot.
Merci, Régis.
Je ne sais pas si c'est un signe, ma petite Karine, mais...
Je file vers la vieillesse.
Le poignardeur est dans la place. Bonsoir, Damien Degore.
Bonsoir, mémé.
Comment allez-vous à deux jours de cette demi-finale? Allez, ça va, vous?
Très bien.
Ouais, tout va bien. Vous avez couru un peu, fait un petit peu de...
Je m'entretiens. Voilà.
Pas plus que ça.
Pas plus que ça.
Pas plus que l'habitude. Ok.
Pas moi, d'ailleurs.
Et mes amis Tanguy Le Sévillier, je vous ai pas présenté, je vous ai nommé, mais voilà, on va voir le beau Tanguy donc à l'antenne. Pouf pouf, bonsoir Tanguy.
Bonsoir.
Ça va?
Ouais. Mmh. Pas mal de petites choses à montrer.
Ok. Paris Saint-Germain champion, la défaite de Monaco à Lyon l'a mécaniquement sacré hier. Paris complète ainsi sa collection de titres après le trophée des champions gagné contre Toulouse en janvier dernier. Reste encore deux cibles, la Coupe de France, finale 25 mai contre l'Olympique Lyonnais et la Ligue des champions dans deux jours, c'est la demi-finale. Allez, Luis Enrique ne voit pas ce titre comme une fin en soi, comme dirait Didier Deschamps, bien au contraire. Écoutez Luis Enrique.
Nous avons remporté deux des quatre trophées et il nous reste la finale de Coupe de France à disputer. Nous allons essayer de nous qualifier pour la finale de la Ligue des Champions et nous allons dédier toute notre force et notre énergie dans cet objectif. L'équipe vit son meilleur moment cette saison, sans aucun doute.
Paris en course pour le quadruplé, faut-il considérer ce titre juste comme une étape? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord et on y va. Karine, vous dites oui, et Bernard, nous faisait un petit voyage, une petite visite à Milan, j'ai l'impression que vous allez nous expliquer ça. Vous avez répondu non, Karine, vous répondez oui, pourquoi? Quels sont votre ou vos arguments là encore?
Bah oui, parce qu'il y a des ambitions du côté du PSG, et il y a une saison qui a été une saison couronnée au niveau national, mais qui n'a pas été exceptionnelle. Ils sont champions de France, mais dans le jeu, on ne s'est pas forcément régalé par rapport à ces 31 journées qui ont été jouées. Est-ce qu'ils seront invaincus à la fin de la saison? Non, parce qu'ils ont perdu déjà une fois contre Nice, donc c'est bien d'être champion de France, mais c'est qu'une étape, parce que Luis Enrique, il a des ambitions, il avait expliqué que son club serait prêt lorsque ça compte, et c'est le cas, c'est-à-dire en demi-finale, en finale de Ligue des Champions peut-être, et lors de la Coupe de France.
Ok. Bernard, vous répondez non, pourquoi?
J'entends ce concept d'état, parce qu'on n'est pas à la fin de la saison, et effectivement, il reste encore deux échéances extrêmement importantes pour le Paris Saint-Germain. Néanmoins, dans l'histoire contemporaine du PSG version Qatar, cette idée de banaliser un titre de champion national, je trouve ça assez hallucinant. Vous avez qu'à regarder ce qui s'est passé à l'Inter Milan. Alors l'Inter Milan, oui, je suis d'accord, n'a gagné que 6 Coupes d'Europe, dont 3 Ligues des Champions, et que 20 titres de champion d'Italie. Et pourtant, les tifosi l'ont célébré, alors qu'à Paris, on a l'impression que c'est normal. Et ça, c'est vraiment un truc qui cloche dans l'histoire du Paris Saint-Germain et dans notre culture française.
Une seconde, 6 dixièmes, Karine Galli.
Bravo aux supporters de l'Inter, mais ça n'a rien à voir. Les Parisiens sont contents, mais ils ne sont pas rassasiés.
Okay. Ça n'a rien à voir.
Bernard ou Karine, Karine ou Bernard, vous allez sur le site l'équipe, président? Le bonbon rose va trancher.
Non, mais je dirais que c'est qu'une étape, même s'il ne faut pas banaliser un titre. Mais aujourd'hui, il y a une telle différence de budget. L'Inter de Milan, ils combattent avec des équipes qui ont le même budget. Le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de match. Donc, Et puis, il y a la Ligue des Champions. On en parle depuis que les Qataris sont arrivés. On en rêve à Paris. Donc, c'est qu'une étape. Ils sont en finale. Il y a aussi la Coupe de France à gagner. Donc, voilà, c'est pas minimiser ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, c'est sûr que la porte s'ouvre pour eux d'un rêve immensément grand. Donc, c'est qu'une étape d'être champion. D'ailleurs, personne l'a réellement fêté dernièrement. Donc, on peut le regretter, mais c'est une réalité dans le quotidien du club.
Damien, la façon dont Paris a obtenu le titre, c'est un drôle de titre, puisqu'ils auraient pu gagner contre Le Havre. Là, ils auraient été sacrés. Il y aurait peut-être eu un peu tour d'honneur, chose comme ça. En fait, c'est la défaite de Monaco. En fait, c'est le lendemain qu'ils ont été sacrés.
Mais c'est pas la manière dont Luis Enrique aurait aimé être sacré en France. Il l'a dit. Je préfère être sacré au sortir d'une victoire plutôt que de la prendre dans l'avion ou derrière la télé. Je peux comprendre. Finalement, moi, je suis assez d'accord avec Ekarine et Bernard. Ekarine, parce qu'on sait très bien que le PSG est jugé à la lumière de son parcours en Ligue des Champions.
C'est une erreur.
Et pas du championnat qu'il domine de la tête et des épaules. Parce qu'aussi, il a un budget qui est supérieur, largement supérieur à tous ceux de ses adversaires.
Et même pour Paris, 250 pour Marseille, à peu de choses près.
Voilà, à peu près. Et Luis Enrique l'a dit avant le match contre Le Havre. Il a dit, mais en fait, c'est normal qu'on soit là. Enfin, il n'y a rien d'illogique à ce qu'on soit premier et champion aussitôt. Vu les différences de moyens qu'il y a avec les autres clubs. Après, où je rejoins Bernard, c'est que c'est vrai que banaliser un titre de champion, quel qu'il soit, dans quel que soit le pays, c'est toujours un peu désolant. C'est un peu toujours désolant parce que c'est quand même, même si Paris a perdu une fois, Paris n'a perdu qu'une fois finalement. Oui, même vrai. Si Paris n'est pas génial dans le jeu, je trouve que Paris fait le boulot, quoi, et c'est quand même, ça fait quand même plutôt une très belle saison.
C'est montre d'une régularité sur toute la saison. Je prenais l'exemple de l'Inter Milan parce que c'est l'exemple le plus contemporain. Mais par exemple, le Bayern Munich en Allemagne a écrasé la Bundesliga pendant 10 ans. Il n'y avait pratiquement aucun suspense. Au mois de septembre, il n'y avait plus de suspense. Quand tu vois les fêtes, les cérémonies, il n'y a pas un joueur au Bayern, pas un dirigeant, pas un supporter du Bayern qui a à chaque fois dénigré le 6e, 7e, 8e, 9e ou 10e titre. Je veux dire, à chaque fois, c'est une domination nationale, ça récompense toute une saison et c'est fêté comme il se doit. Et je suis désolé, il y a une exception culturelle, justement par un manque de culture sportive en France. Et moi, je le regrette profondément. Et c'est pour ça que...
Après, tu voulais qu'il fasse quoi, là?
Que je méritais. Non, mais le public. Je trouve qu'il y a quand même... Je parle pas des joueurs, je comprends. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a le scénario qu'on a rappelé. Ils auraient dû le fêter au parc, etc. Mais je veux dire, ça s'est passé dans l'indifférence totale.
Mais ils sont pas champions.
Paris. Qui, ils sont pas champions?
Mais ils sont pas champions dimanche, lors du match contre Le Havre.
Dimanche, sur un club immensément populaire comme le Paris Saint-Germain, tu aurais pu avoir des klaxons, des milliers de personnes sur les Champs-Élysées. Je parle pas des joueurs, moi.
Non, mais je pensais que tu parlais au stade.
Non, j'ai parlé des Parisiens.
Là, on est à Milan, sur le dernier coup d'État, mais c'est vrai que c'était à l'issue contre le Milan.
Non, ça c'était.
C'est après contre le Torino.
C'était contre le Torino. Non.
Ça c'est hier.
Une semaine après. C'est-à-dire, ils ont été officiellement champions en gagnant le derby de la Madonnina. À Milan, virtuellement, parce que c'était sur la pelouse du Milan AC, puisque c'était un Milan Inter. Je veux dire, la semaine d'après, 8 jours, il y a des milliers de tifosi qui sont venus, il y en avait des dizaines de milliers, et c'est quand même leur 20e titre. Je veux dire, ils ont 9 titres internationaux, 3 Ligues des Champions.
Moi,
ça me choque, je trouve ça regrettable.
Vendredi dernier, on faisait un petit débat sur l'éventuel titre du Paris Saint-Germain.
Oui, fait-il un beau champion?
Oui, est-ce que ça pourrait être un champion grand cru? Vous le louez. Est-ce qu'à travers, finalement, ce sacre-là, vous avez un peu révisé votre jugement, vous l'avez affiné, vous avez d'autres...
Mais non, moi, je change pas de ligne. Je trouve que Paris fait un beau champion parce qu'il n'a perdu qu'une fois dans la saison. Alors même s'ils sont pas invincibles comme a pu l'être Arsenal, mais une seule défaite sur 31 ou 34 journées, on verra. Mais bon, je trouve que c'est une vraie performance. Et après, je suis sur la ligne de Bernard. Un titre de champion, c'est un aboutissement.
Tu peux pas banaliser.
Que ce soit au Bayern, que ce soit à City, que ce soit au Real ou n'importe où, un titre de champion, c'est un aboutissement. Au départ de la saison, je pense que... Évidemment, la Ligue des Champions, ils l'ont jamais gagné, c'est le truc. Mais je pense que champion de France, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et surtout, la possibilité de perdre le titre, comme c'est arrivé en 2017 ou en 2021, je pense que tu peux pas minimiser, tu peux pas vulgariser, tu peux pas dire oui, ils sont champions, ils ont le plus gros budget. Ça me semble
c'est
délicat.
C'est pas banalisé, mais malheureusement, cette saison, on a quand même vu très vite qu'il n'y aurait pas une adversité. Parce que.
Bah non, Marseille... pas très vite, justement.
Ah bon?
Bah non. Très vite, ça veut dire au bout de 9 journées, Paris et Monaco étaient en tête.
Non, donc, mais sauf que Monaco a été irrégulier et ils sont deuxième.
Oui, mais c'est
à
pas très vite, carrément. Bah, fin novembre, tu savais déjà. L'écart était écrit.
Sur 34 journées, t'as très bien vu que. Lyon n'y serait pas, Marseille n'y serait pas, Monaco était irrégulier, donc tu t'es pas dit, tiens, il y a un épouvantail qui va pouvoir peut-être tenir la dragée haute à Paris, et c'est ce qu'on recherche à chaque début de saison. Et malgré le love de Kylian Mbappé, les matchs nuls contre l'Orient, etc., bon, bah, tu t'es dit, et bravo aux Parisiens, mais tu t'es dit que les autres clubs, ils travaillaient pas bien, qu'ils étaient pas constants, et que le PSG ferait le travail, contrairement à ses adversaires.
Donc, le président vous interpelle, Régis Testelin.
Il y a une stat quand même que j'ai regardée, il y a 10 matchs nuls, c'est énorme. Parce qu'on parle que d'une défaite, ce qui est vrai. Mais 10 matchs nuls, j'ai regardé, il y a 4. Il y a 2-3 équipes qui ont 11 matchs nuls.
Marseille, notamment.
Et c'est énorme. Et l'autre chose que je dirais, même si c'est regrettable, bon, au-delà, on répète des budgets. Qu'est-ce qu'a fait... Moi, je n'ai pas vu, hein, mais peut-être je dormais parce que je ne regarde pas les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'a fait le PSG? Qu'est-ce qu'ont fait les joueurs? Ils ont sauté au plafond? Ils ont communiqué comment? J'ai l'impression qu'il n'y a personne sert.
Aujourd'hui enfin, bah, je vais vous expliquer ce qui s'est en fait aujourd'hui.
J'ai vu Nasser qui a parlé. Bon, on est content, mais il y a rien.
Je vais vous raconter.
Il s'est rien passé.
Je vais... Aujourd'hui, il y a eu un entraînement à Poissy. C'est Loïc Tanzi qui nous raconte ça sur le site L'Équipe. Il y a eu juste à un moment une petite cérémonie où tous les joueurs étaient titrés.
On est à J-2 du match.
D'accord, mais je suis d'accord.
Pas faire comme si on savait pas.
Non, mais je suis d'accord. Mais si tu me parles d'un titre et même eux à l'intérieur. Ils n'ont pas l'air. Bon, on dirait que c'est des mecs qui vont au boulot. Ils vont sauter au plafond quand ils ont gagné à Barcelone, parce que là, c'est un exploit. Tu vois la différence un peu entre une victoire et une qualif à Barcelone, qui est loin encore d'être titré. Et là, non, mais je ne sais pas, même chez eux, oui, j'ai l'impression que tu. Enfin.
Ils vont pas célébrer le titre alors que mercredi soir, ils jouent le match le plus important.
Non, mais ils peuvent faire un gâteau, ils peuvent faire un petit show là-bas, j'en sais rien. Ils peuvent inviter 1000 mecs, 600 mecs, tu ouvres le camp d'entraînement, au moins pendant un quart d'heure. Moi, je suis président, je te la fais quand même.
Sur la communication en général, on surveille ça sur Instagram et tout ça, Kylian Mbappé qui publie pas mal de choses. Il n'y a aucun truc, aucun tweet, aucun.
Mais moi, je trouve ça d'une tristesse. Absolue.
Ouais. Voilà.
J'ai regardé Marquinhos.
Mais après, quand tu parles.
Marquinhos aussi?
Non, j'en sais rien, mais je ne les suis pas. Mais Marquinhos, le capitaine, souvent, il communique. Et puis lui, c'est quand même un vrai emblème du PSG.
Tout ça pour dire quoi? Que
les gens. Marquinhos,
c'est qu'une étape.
Que les gens sont blasés.
C'est qu'une étape. Toi, tu me parles que c'est un aboutissement.
Non, mais je dis qu'un titre de champion est forcément un aboutissement. C'est tout.
J'avais un truc à vous demander. C'est un titre qui a marqué les années PSG. Nous sommes le 13 mars 2016. Le lendemain, une de l'équipe. Paris décroche le titre de champion le plus rapidement. C'est le champion le plus précoce. C'est les monstres sacrés.
Après la victoire.
C'est 9-0 contre 3. Rappelons juste, pour ordre d'idée, 3 avait marqué, donc après 30 journées, 8 buts à domicile, donc dans son propre championnat. Et là, Paris, sur un match, marquait plus de buts que l'ensemble de la saison à domicile de 3, pour vous dire. Donc, c'était les monstres sacrés. Pour que le titre de champion ne soit pas voué à l'amnésie, ce qu'il faut, Paris dégage un monarque absolu, quelque chose comme ça. Il faut qu'il batte des records de précocité.
Ouais. Il aurait fallu qu'il soit invincible.
Ouais.
Non, mais à une certaine époque, on disait, tiens, est-ce que le PSG peut aller chercher les invincibles d'Arsenal? Oui. C'était un objectif. Il y avait les 100 points à un moment. Là, aujourd'hui, on nous annonce rien et c'est pas grave. Mais je trouve que ce titre-là, moi, je suis désolé par rapport à Régis, je trouve pas que le PSG soit un très beau champion en Ligue 1. J'ai pas 5 matchs qui m'ont marqué en Ligue 1 du PSG cette année où ils ont roulé sur l'adversaire, où je me suis régalé pendant 90 minutes, etc.
Je trouve que la progression de l'équipe a été incontestable et j'en parlais la semaine dernière. Il y a un certain nombre de joueurs, je vais peut-être me répéter, mais Marquinhos est revenu à un excellent niveau, Zaïre Emery a touché l'équipe de France, Barcola est tout prêt, Mbappé il a réussi à gérer une saison qui était quand même ô combien compliquée, il y a plein de joueurs qui sont sortis du bois, Vitinha il a progressé, c'est incroyable, donc il y a quand même eu une progression, il y a eu l'émergence de quelque chose à Paris cette saison.
Marquant en Ligue 1, t'en as? Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là, mais il y a quoi comme match marquant?
Des matchs contre Lyon quand même, le match contre Monaco, Parc des Princes.
5-2 contre Monaco, c'est son rival.
Enfin, le match à Marseille, c'était pas mal quand même.
Non, il y a eu quelques matchs.
Non, mais il est vrai qu'au niveau des stats, même si.
C'est quand même 10 fois mieux que la saison passée.
Il vaut mieux de toute façon qu'ils aient moins de stats et qu'ils fassent le quadruplé, tu es d'accord avec moi. Mais Mbappé, pour l'instant, même s'il va avoir 3 matchs en moins ou 4 par rapport à 38, et là c'est 34, il a 24 buts. Tu ne montes pas pour l'instant au plafond, même s'il joue moins, on peut le comprendre, mais il a 24 buts. Ils en ont marqué 79. La barre des 100 buts, on en parlait au temps de la BBC, au Real, au Barça, à la MSN, 100, 120 buts, enfin 100 buts en championnat, on va dire qu'en Liga, ils sont loin de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout.
Si on est là pour dire la Coupe de France en 2019,
mais l'essentiel, c'est qu'ils gagnent la Coupe d'Europe.
Ils sont champions de France à la prochaine.
C'est l'essentiel, c'est la Coupe d'Europe.
Non, mais si un beau champion, c'est forcément une équipe qui laisse une trace dans le jeu.
Bon, bah alors. Un peu quand même, quand t'as gagné 10 fois sur 12.
Mais pas forcément. Non, mais.
Pour Paris, il faut un peu plus que ça. Ils sont champions à peu près tous les.
Mais d'abord, c'est pas une équipe qui est quand même nulle à chier, hein. Excusez-moi l'expression, mais.
On n'a pas dit qu'ils étaient mauvais.
Non, mais on voit quand même. Moi, je trouve que c'est plutôt. Je sais pas si la progression était linéaire, mais il y a quand même du mieux, quoi. On voit où Luis Enrique veut en venir, et il est pas loin d'y arriver. Ensuite. C'est toujours très subjectif tout ça, quoi. C'est quoi quel champion de France, peut-être celui de Laurent Blanc, a laissé une trace dans le jeu sur les 25 dernières années? L'Olympique Lyonnais a laissé une trace dans le jeu.
2017 est magnifique.
Ouais, c'est magnifique. Je sais pas si c'est magnifique, mais.
Mais ça tombe bien que vous parliez de l'Olympique Lyonnais parce que. Moi, je fais des comparaisons et on a eu cette discussion là vendredi dernier. Quand la Juve, quand le Milan, quand le Bayern, quand le Real, quand le Barça, ils sont champions, on a l'impression qu'on n'est pas dans un champion grand cru. On dit, en fait, c'est la normalité. Est-ce que finalement, ce Paris Saint-Germain qui est surarmé, la normalité, c'est d'être champion, puis c'est tout. Et puis après, pour, on va dire, les garnitures, c'est la Ligue des Champions, c'est ce qui fait, on va dire.
Moi, c'est le sentiment que j'ai. Quand je les vois jouer, j'ai le sentiment que cette équipe en Ligue 1 aujourd'hui, elle se met toujours un tout petit peu au-dessus du niveau de son adversaire, quel que soit le niveau de son adversaire. Et à chaque fois, ça suffit pour gagner les matchs. Je trouve que déjà, c'est quand même un signe.
C'est pas youpi, c'est pas. Wow.
Non, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, il y a 4, 5, 6 matchs côté sympa. Mais c'était pas non plus. Il n'y a pas eu de matchs qui ont impliqué le PSG comme Rennes-Brest ou comme Lyon-Brest.
Quand tu dis à chaque fois, ils se mettent juste au-dessus pour gagner des matchs, il y a 10 matchs nuls. Donc il y a 10 fois ou un moment donné, ils se sont mis
dans quelles circonstances
au niveau pour gérer les affaires.
Voilà.
Avec
c'est ce qu'ils ont fait.
Un laboratoire.
Avec 10 points d'avance. Ils ont fait les nuls quand ils ont eu 10 points d'avance.
Je trouve ta lecture de la saison parisienne, Eric, excuse-moi.
Elle n'est pas bonne.
Mais non, pas, je n'ai pas dit pas bonne. Parce non, que mais tu as raison. C'est ton prisme. Je la trouve extrêmement exigeante. Parce que.
Ah ben putain, exigeante. Mais 800 millions des stars.
Non, mais t'es champion de France à la 31e journée.
Je te dis, c'est.
T'es en finale de la Coupe de France alors que tu l'as laissé filer 2 fois sur les 3 dernières années.
Non, mais.
Tu gagnes le trophée des champions, on s'en fout. Mais t'es en demi-finale de la Ligue des Champions. Déjà donc dit. En fait, s'ils se font sortir ou s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, ce sera une saison moyenne, voire même ratée.
Non.
Comme tu l'as dit, il y a des choses qui vous tiendra. Voilà, Zaïre Emery, Dembélé qui est régulier, Vitinha qui est une bonne trouvaille.
Zaïre Emery, c'est l'année dernière.
Zaïre Emery, l'an dernier, il émerge, mais il n'est pas titulaire indiscutable. Il devient titulaire indiscutable cette saison.
Il avait 12 ans l'année dernière.
La saison pleine de Zaïre Emery, c'est cette année, c'est pas l'an dernier.
Oui.
Et Dembélé, c'était pas sûr du tout qu'il fasse une telle saison en termes de régularité. Et en termes de « je ne suis pas blessé », c'est quand même génial.
Et d'efficacité, d'efficacité dans les grands matchs, parce qu'en quart de finale de la Ligue...
L'efficacité, pour moi, elle n'est pas suffisante. Mais en tout cas, sa saison est réussie. Barcola, il arrive, il aurait dû finir en Suisse. Il est titulaire au PSG. Donc ça, c'est des choses concrètes.
Oui, après...
Faut-il
après,
considérer le titre du PSG juste comme une étape, un camp de base? Le oui l'emporte, Karine l'emporte largement, 62 à 38. Vous battez toujours bien, Bernard.
Les exemples réversibles, Ramos, Colomuani, Kimpembe qui n'est jamais revenu.
Ramos, c'est pas un raté pour
Bernard, moi. Bernard et Karine, on va passer. Parce qu'on va parler de Brest, on n'a pas l'occasion de parler de Brest. Et nous allons parler de Brest, vive l'Europe, de l'ogre parisien, donc au petit pousset brestois. On va voir une séquence folle hier, la victoire et le but de la victoire de Brest au Roazhon Park, un but 5-4, le but de Lilian Brassier, qui qualifie donc. Brest pour une Coupe d'Europe, une première de son histoire. Reste à savoir maintenant quelle Coupe d'Europe. Après la rencontre, Lilian Brassier raconte son but un peu à l'image de sa saison. Écoutez-le.
C'est qu'au début, avant qu'on tire le coup franc, il y a Kenny qui passe devant moi. Je dis, allez, les gars, on joue le nul. Et Kenny m'a dit quoi ? Monte devant. Je lui ai dit, t'es sûr ? Il m'a dit, allez, monte. Et au final, il a eu raison. Hein. C'est une grosse saison. Et saison de malade, match de malade.
Brest, est-ce que ça restera l'équipe de la saison en Ligue 1, évidemment? Alors, Eric, tout le ville-peuple a dit oui, on va commencer par Régis Testelin.
Bah, c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai vu les trois derniers matchs, certains au stade, d'autres à la télé. Le match de Lyon est incroyable, ils le perdent, mais il est fabuleux. Le match d'hier est magnifique. Tout est bien, quoi. Tout est bien. Ces joueurs qui se hissent à un niveau, mais des inconnus notoires. Enfin, je sais pas, pas un joueur en début de saison sur lequel j'aurais mis une pièce. Et Eric Roy, qui est arrivé il y a 18 mois, qui était perdu, 12 ans au placard. C'est un truc de dingue. Il joue super bien au foot. Enfin, c'est enthousiasmant. C'est la saison dont, enfin, on rêve d'assister à ça. On est content d'être tout près de l'éclosion de ce truc-là. Moi, ça me renvoie quand j'étais, je sais pas, gamin. Enfin, j'ai des yeux d'enfant pour cette équipe.
Tout le monde a les mêmes yeux comme
ouais,
ça.
Oui, parce que ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on a senti un moment que ça commençait à s'effriter, un peu à se déliter.
Là, les dernières semaines.
Oui, les dernières semaines, les premiers débuts. J'ai eu le plaisir d'aller au stade brestois il y a trois semaines, déjeuner avec eux, et tu les voyais pas en souci, mais ils calculaient qu'il leur manquait quelques points. Et ils ont changé de système de jeu. C'était pas la peur de gagner, mais Régis connaît bien ça au tennis. Quand t'as le point de la victoire, bon, ben, on n'est pas très loin, on va y arriver. Et puis, les matchs à Lyon, tout ça, tu les perds. Et hier, ils débutent le match où ils se torpillent tout seuls et ils reprennent leurs fondamentaux de jeu. Moi, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Ils repartent sur leur 4-3-3. Tu sais que c'est un jeu sur les côtés. Tu sais qu'il faut les prendre sur les côtés. Eh ben, t'arrives pas à les prendre sur le côté. Et 3 des 4 buts, ils passent sur, sur le côté, sauf le 4. Qu'un coup franc. Et c'est ça qui est remarquable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas renoncé à leur principe de jeu, ils n'ont pas renoncé à leur ADN, même si ce soit un petit peu un moment égaré, Eric Roy, il a changé de système, il a changé de joueur, etc. Ils sont revenus aux fondamentaux à ce qu'ils savaient faire, ils ont été récompensés. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire que c'est une force mentale extraordinaire.
Tous les lundis, on courait après les Brestois, tous les lundis, on se disait alors, vous jouez quoi? Alors, la Ligue des Champions? Alors, bon, Pierre Lesmélou, là, maintenant qu'ils sont en Coupe d'Europe, hein, on ne connaît pas encore vraiment la Coupe d'Europe qu'ils vont disputer. Il nous dit ceci, c'est à la trêve qu'on a commencé à penser à quoi jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, alors qu'on n'en avait que des défaites tirées par les cheveux. À l'intérieur du vestiaire, on a été très vite, très ambitieux, mais on ne voulait évidemment pas le montrer, pas vous le dire, pas nous le dire, évidemment. De cette, est-ce qu'il y a une morale de l'histoire dans ce parcours de Brest qui a an à peu près
joué
pour le maintien? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre, quelque chose, un enseignement à prendre sur ce joli parcours?
Rien que Lesmélou, c'est quand même un exemple génial. Ouais. Parce qu'à Noël, il aurait pu partir à Rennes, il aurait pu faire le contrat de sa vie.
Il aurait dû.
Lorenzi lui a dit non. Il est parti quelques jours en vacances, il a dû digérer. Bon, ça, c'est ce qui est écrit sur le papier, mais tu peux ne plus être bon sur le terrain. Et lui, il n'a pas eu de contre-coup. Et c'est admirable. Des joueurs qui ratent un transfert et qui ruminent et qui ne retrouvent pas leur niveau, il y en a plein. Et Lesmélou, ça ne l'a pas du tout touché au final. Et c'était la pierre angulaire du projet brestois, parce que si tu perdais Lesmélou au milieu de terrain, bah, tu n'étais pas sûr de faire cette deuxième partie de saison. Donc, il a été très intelligent. Brest aussi a été quand même intelligent, parce qu'ils ont fait un petit effort aussi pour lui faire digérer la pilule. Et la plus belle histoire, c'est Eric Roy, bien sûr. Franchement, personne n'aurait imaginé qu'il puisse faire ça. Et Brest joue très bien. C'est la troisième meilleure attaque de Ligue 1. C'est pas une équipe chiante. C'est pas l'OM des Libop qui gagne tous ses matchs 1-0. Franchement, en termes de foot, de
la morale, la morale quand même, c'est qui contredit un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le PSG d'une certaine manière. C'est que le budget finalement ne fait pas tout, quoi. Parce que Brest, c'est le 15e budget de Ligue 1.
Ouais, 48 millions d'euros.
C'est même pas 50 millions d'euros. Ouais. Et que de l'enthousiasme, des compétences, des bons choix. Ça peut aider. Alors c'est vrai qu'avoir un peu d'argent, c'est quand même pas plus mal. Mais avoir relancé Lesmélou comme Brest l'a fait, il s'était perdu à Norwich. Satriano, obtenir le prêt de Satriano, c'est un bon coup aussi.
Si je jouais pas.
Mais non,
ça c'est fort.
Mais oui, mais c'est parce que c'est aussi un club qui travaille, quoi. Lorenzi bosse. Bernard parlait du manque de culture sportive dans ce pays à juste titre. Au moins, il y a une culture foot à Brest, ouais. En Bretagne en général, mais à Brest en particulier. Et il y a un véritable enthousiasme, quoi. C'est effectivement assez fantastique de voir cette équipe.
C'est un peu le village gaulois, c'est un peu Astérix et Obélix. Alors Obélix, c'est bien sûr pas Eric Roy, parce qu'il a, pas ma morphologie.
Donc là, tu es en train de chercher dans l'organigramme qui peut être.
J'ai pas de balancé à l'antenne, tu vois. Attendez, le président m'a parlé. Brest,
j'adhère à tout, mais Là, c'est sueur froide, comme on parlait. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine avec le budget?
On en parle dans quelques minutes.
Ça savoure un peu quand même déjà.
Non, mais il savoure. Et tant mieux qu'il savoure. Mais
Eric,
quand t'es aux manettes, tu dis, on fait quoi?
Brest en Coupe d'Europe.
Trois tribunes tubulaires.
Brest en Coupe d'Europe, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour notre Ligue 1.
C'est compliqué.
Qui dit ça?
On est parti là-dessus. C'était une question de Bertrand Latour dans l'équipe de choc. Ben à non. qui À Eric Roy, qui était invité de l'équipe de choc. Évidemment, il n'a pas aimé ses commentaires. Oui. Des commentaires qui ont été relayés par Bertrand Latour. Ce n'est pas du Bertrand Latour, je tiens à préciser. Eric Roy nous raconte cette petite histoire. On y va.
Je l'ai encore entendu hier, et parce qu'on me les a répétés, et qu'après, derrière, je suis allé justement voir, parce que maintenant, on a des podcasts et des choses comme ça. J'ai encore entendu, pendant notre match, des consultants ou consultantes dire « Ah, si Brest est en Europe, ça serait quand même pour la Ligue 1 quelque chose de terrible. » Parce que, mais ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire qu'on ne donne pas la valeur du sportif. C'est le sportif qui prie. Si effectivement on reste dans les 5 premiers, parce que maintenant de toute façon c'est acté, puisqu'on a 10 points d'avance sur le 6e, je veux dire, on le doit quand même qu'à nous et ce qu'on a fait sur le terrain. Donc pourquoi ça serait un désaveu pour la Ligue 1 d'avoir Brest en Coupe d'Europe l'année prochaine, à partir du moment où on l'a gagné sur le terrain? Et on entend encore des choses comme ça. Donc moi après, mais je suis complètement conscient, moi je comprends complètement peut-être que les instances, que les institutions, que les médias préfèrent avoir des grandes équipes avec des gros budgets, avec des grands stades dans ces compétitions européennes. Ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais à eux de faire le travail sur le terrain. Et manifestement, il y en a certains qui ne l'auront pas fait cette année. Donc, quelque part, on n'a rien volé à personne. Et c'est pour ça que je dis que quand j'entends ça, bah, c'est que forcément, je ne dis pas que ça dérange tout le monde, mais ça en dérange certains, certainement.
Voilà. Éric Blanc.
Non, moi, ça ne me dérange pas. Mais lui-même le reconnaît quand il était de l'autre côté, potentiellement dans des grands clubs. Il sait que si ça ne suit pas dans les structures du stade, déjà. Après, moi, je parle surtout de la Ligue des Champions. Parce que la Ligue Europa ou la Conférence, parce qu'on ne sait pas, ils vont jouer minimum la Ligue Europa, pas la Conférence, mais la Ligue des Champions, de loin. Et c'est bien, rien
c'est bien.
Contre Brest.
C'est bien que tu parles de la Ligue des Champions. C'est bien que tu parles de la Ligue des Champions. Parce que Marseille fait davantage rêver en Coupe d'Europe, la preuve en Ligue Europa, mais en Ligue des Champions, a un peu de mal à se qualifier. Quand même, finit-il troisième. Monaco a eu autant de mal à passer le tour préliminaire.
C'est la morgue des
Champions. On peut continuer comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à la limite, Brest ne fera pas pire. Brest ne fera pas pire que ces équipes-là.
Il n'y a pas que ça. C'est quand. Bon, moi, j'ai été de l'autre côté quand même co-président d'un club. Quand t'as pas de structure, on te dit que, et tu sais, la charte pour accéder aux grandes compétitions. T'as trois tribunes tubulaires et tu peux pas jouer avec que 5000 personnes. Sinon, faut déménager ou faire 20 millions de travaux en 2-3 mois pendant les Jeux Olympiques, les trucs. Ça pose un problème.
Et que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa, c'est pareil.
Vrai, ça pose un problème et donc faut se structurer.
Non, mais pour la Ligue Europa,
qu'est-ce qu'ils vont faire?
Attends, Eric, c'est la même chose. La Ligue Europa.
Moi, j'attends une chose, c'est qu'ils soient en Ligue des Champions parce qu'ils le méritent.
Ben oui.
Et les 50 millions qu'ils vont prendre, hein, on parle de 50 millions, pour vous confirmer à peu près. Oui, qu'est-ce que tu en fais un peu dans les joueurs? Tu vas en perdre, tu vas recruter malin, tu vas faire des travaux, tu vas améliorer les structures, le camp d'entraînement, la tribune. C'est ça qui m'intéresse. Parce que là, aujourd'hui, président, est à la tâche.
Ils ont projeté leur nouveau stade qui va sortir. Alors.
Ah, je ne sais pas, moi.
Mais oui, ça arrive un peu tôt. Mais vous raisonnez en termes de business. Je veux bien entendre. Moi, ce que je trouve, c'est la morgue des grands, c'est un manque de respect total pour le football et pas seulement pour le stade brestois. C'est parce qu'on est dans un pays, on est en train c'est un présupposé qui dit, ouais, mais avec Brest, on a moins de chances de gagner la Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est-à-dire que nous, on est dans un pays où on a tellement l'habitude de disputer des finales, tellement l'habitude de gagner des Coupes d'Europe, on se dit, oh là là, les prochaines, on aura une chance de moins. Je rappellerai quand même l'histoire de la Coupe d'Europe au niveau français, c'est-à-dire, on est des nains. Il faut quand même que les Français se rendent compte, on est des nains en Europe. Ben, les histoires immortelles qui sont restées, c'est les Schtroumpfs de Michel le Millénaire avec Laval qui ont éliminé le grand Dynamo Kiev. Et ça a suscité beaucoup plus d'émotions que le zéro pointé de l'OM en Ligue des Champions. Alors après, si on parle de tiroir caisse, d'accord. Moi, je préfère rester sur le terrain du sport. Et on a vu jouer une équipe formidable. Ment bien cette saison, et Brest, d'un point de vue sportif, mérite largement, et ne sera pas plus ridicule.
ridicule que les autres. Pas plus ridicule que le Stade Rennais qui est resté pendant 22 matchs en Coupe d'Europe sans jamais en gagner.
Bernard, on a compris, mais il y a un truc. Parfois, vous êtes là le jeudi soir. Parfois, le jeudi soir, bon, pour les clubs français, c'est pas terrible. Il y a des jeudis noirs et tout ça. Et parfois, vous nous dites, vous nous répétez que le drame du football français, c'est le manque de continuité des clubs. Qui n'ont pas la culture européenne, qui la disputent pas régulièrement, comme vous faites. Voilà. Donc ce soir, Brest, qui va disputer une Coupe d'Europe, bon, eux, c'est leur première. Hein,
c'est c'est un one-shot.
Est-ce qu'on peut parler quand même d'anomalie? Voilà, là, je pondère
mais
un
c'est
peu.
Une, mais c'est une très belle anomalie.
C'est une formidable anomalie.
Mais il a très bien dit, Eric.
Et ça tord le coup football business, où on dit tant d'argent égale telle place. Et bien là, ils ont tordu le coup, et c'est pour ça que dans ce football moderne, où il n'y a qu'un raisonnement par l'argent, je trouve que ça a tordu le coup à cette idée reçue, et qu'on peut mettre de la compétence et après mettre de l'argent. Pas mettre de l'argent et après essayer de trouver la compétence. C'est ça la leçon. Bernard. C'est pour ça que c'est moral.
Mais c'est les autres qui n'ont pas bien travaillé.
Bernard, vous avez droit à une petite sucrerie.
Oui.
Ah, oui, un petit cadeau. Tanguy Le Sévillier, parce que vous avez reproché aux supporters parisiens de ne pas avoir fêté.
Du coup, ils sont tous sortis.
Du côté de Brest, c'est une autre ambiance.
Ça, ils l'ont bien fait.
Ouais, ça va beaucoup mieux. Évidemment, les supporters brestois ont fêté cette qualification en Coupe d'Europe. Les joueurs ont été accueillis avec des fumigènes dans la ville de Brest après cette victoire du côté de Rennes. Des images magnifiques.
Moi, je suis désolé, mais c'est le football qu'on aime.
Mais on ne dit pas le contraire. Moi, je vais dire une chose. Moi, quand je t'entends, tu me mets dans le camp des mecs qui n'aiment pas Brest, qui sont contre Brest, pas du tout. Je dis une chose.
Mais le prends pas pour toi.
Non, mais parce que je dis quand même que tu as un peu peur de la continuité et j'attends de voir quelle est la politique et l'utilisation quand même de cet argent. Je pense qu'ils vont asseoir le club dans les structures et tout et ils le méritent. Mais après, tu as raison de dire qu'en Coupe d'Europe, c'est compliqué même pour des clubs qui ont des gros budgets. Mais là, tu as un peu peur quand même Brest en Ligue des Champions. Bon, si on est éliminé, on ne fera pas mieux. Mais j'espère
Tu ne peux pas exiger de la continuité pour Brest quand on n'en a pas exigé pour d'autres. Quand Toulouse, je ne sais plus quelle saison, 2009 est troisième du championnat, joue contre Liverpool le tour préliminaire et descend deux ans plus tard en Ligue 2 ou trois ans plus tard en Ligue 2. On n'est pas là à reprocher à Toulouse d'avoir fini troisième et de ne pas avoir bien géré la suite. Quoi.
Non, mais tu peux être tout en haut, et malgré cette équipe, tu peux te retrouver d'autres.
Dans ton analyse,
Saint-Etienne a été dans le même cas, en Ligue Europa, ils ont fini.
Dans ton analyse, tu profites pas de l'instant présent, quoi. T'es déjà dans l'après.
Mais moi, je suis pas breton, je suis pas supporter.
Ah non, mais c'est pas une question d'être supporter.
Ben, je suis content pour eux, mais je suis pas. Mais oui, mais moi, je suis.
C'est quand même génial de voir cette équipe.
Moi, j'aime le foot,
faire ce qu'elle fait, quoi.
Oui, mais moi aussi, mais je suis neutre. Une maison en Bretagne, je vais pas en Bretagne
mais
en
moi
vacances.
Aussi, je suis neutre, Eric.
Et je suis très content pour eux.
Personne ne va en vacances à Brest.
Malgré mon accent, je suis pas breton. Je tiens un fort démenti.
Mais quand le foot te laisse un peu indifférent, des histoires comme ça, elles te réconcilient avec le foot.
Voilà. Demain, dans l'équipe de Greg, les trophées UNFP, la révélation des nommés. Ça sera dans 15 jours. Dans 15 jours sur notre antenne, donc les Oscars du foot, les trophées UNFP, lundi, donc dans 15 jours. Et les révélations, les nommés, seront donnés demain dans l'équipe de Greg. Allez, à tout de suite, on marque une pause, puis dans quelques minutes, tous les résultats de la soirée. Retour sur l'équipe du soir, on est lundi soir, tous les lundis pendant maintenant 4 prochaines semaines, c'est Rocky, tous les lundis soir, entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir. Comment, Bernard ?
Non, je... Bonsoir, une amie, Adriane.
Adrienne.
Non, c'est Adrienne, elle est dans le Minervois.
Adrienne, ça c'est autre chose. L'œil du tigre, la semaine prochaine, avec Gloverland, Mr. T. Ouais, un chef-d'œuvre du cinéma, mes petits. Tanguy, le sévillier pour le Minuit Info. On va commencer par Auxerre, le leader qui a pris une option sur la montée en Ligue 1, un succès contre Dunkerque.
Une victoire 3-1 au stade Marcel Tribu de Dunkerque qui rapproche les Bourguignons de l'élite. Ce sont pourtant les Dunkerquois qui ont ouvert le score grâce à Guessim Yassine qui va tromper Donovan Léon sur ce joli coup de patte. À l'une des révélations de la saison. On voit la tentative d'égalisation de Joubal. Mohamed Koné va bien, rassurez-vous. Les Auxerrois en deuxième période vont réussir à revenir dans cette partie grâce à Lassine Sinayoko et même à prendre les devants grâce à Gaëtan Courtais, buteur contre son camp, ancien Auxerrois. Et puis finalement, le score va s'alourdir un petit peu grâce à Sinayoko qui trouve Raveloson. Les Auxerrois sont leaders à 3 journées de la fin, 4 points d'avance sur Saint-Etienne et 6 sur Angers. Ça sent très très bon pour eux.
Oui, une option sur la montée en Ligue 1. En National, le Red Star est déjà assuré de monter en Ligue 2 et s'est incliné ce soir à Nîmes.
Une défaite, la cinquième de la saison pour les joueurs du Resta. Une défaite 1-0.
Et beaucoup pour Abibaye.
Ismaël Camara est l'unique buteur de la soirée. Vous allez le voir, en deux temps, il s'y reprend. C'est un ancien du Red Star. C'est son cinquième but de la saison. William Avoignan est battu. Les Crocos sortent de la zone de relégation avec ce succès. 3 points d'avance sur Villefranche-Beaujolais, premier relégable.
On est content ce soir d'accueillir Eric Blanc puisque son Barça a gagné 4-2 contre Valence avec un triplé de Robert Lewandowski.
Oui, gros match à Montjuïc. Sous la pluie, c'est Fermín López, on va le voir, qui eh bien, ouvre le score dans cette partie. Bien trouvé par Rafinha. Hugo Duro va en profiter avec cette erreur de Marc-André Ter Stegen qui tente le petit piqué par-dessus, ça ne passe pas. Derrière, les Valenciens vont prendre l'avantage, mais Mamardashvili va se faire expulser. Ouais. Et derrière, eh bien, Lewandowski va entrer en scène. Premier but de la tête, le deuxième également sur corner. Et puis finalement, on va le voir dans le temps additionnel, il va s'offrir un magnifique coup franc. 16 buts en Liga cette saison, son premier triplé. Le Barça est deuxième de Liga à 11 points du Real Madrid.
Ouais, c'est fait par rapport à Gérone, à leur deuxième place.
Ouais, mais enfin, ils ont gagné à 10 contre 11, 3-0, parce qu'ils n'ont pas fait un grand match.
Non.
Non. Et Arroyo a démonté un mec, pénalty, il aurait pu prendre un rouge, j'en peux plus. Mmh. Ouais, bah, il fait que des conneries. Alors bien sûr, il a 21 ans, il a un gros potentiel, mais bon.
Coup parti, il fatigué, c'est fatigué, voir les mêmes erreurs. Quand même, là, dans la surface.
Comment?
La faute qu'il commet dans la surface.
Non, mais il recommence une semaine après. Et c'est un truc de fou.
Ter Stegen, là, son petit piqué.
Ah, il a voulu. Il s'est pris pour un autre. Ouais, bah, aussi, il faut qu'il se remette en question.
Ok, bon. Vous allez les appeler, hein?
Non, je vais rien appeler. Je regarde, mais il faut se bouger un peu.
Ok, très bien. Bougez-vous. En Ligue des Champions, c'est bon. Bayern Real, justement, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera demain à Munich. Des nouvelles du front avec vous. Mon cher Tanguy.
Ah oui, en cette veille de match, il était l'heure des conférences de presse ce lundi. Joshua Kimmich a évoqué le danger que représente Vinicius Junior, tandis que Carlo Ancelotti, lui, s'est amusé à comparer deux styles d'entraîneurs. Écoutez-les.
Vinicius est l'un des meilleurs dribbleurs et l'un des meilleurs en un contre un en Europe. C'est toujours difficile de défendre seul contre un tel joueur. C'est pourquoi il est important que nous soyons une équipe. Il faudra essayer de résoudre les problèmes en équipe. Nous savons qu'il est très dangereux, qu'il est très rapide et très déterminé. Il ne s'agit pas seulement d'une situation de 1 contre 1, mais plutôt de défendre collectivement, surtout contre un joueur extraordinaire comme lui. Le rôle le plus important n'est jamais celui du coach. Il y a deux types d'entraîneurs selon moi, et j'ai une idée très claire sur le sujet. Il y a ceux qui ne font rien et ceux qui causent beaucoup de tort. Moi, j'essaie d'être parmi les premiers. Le match appartient aux joueurs. L'entraîneur peut déterminer une stratégie, les convaincre. Mais ensuite, c'est la qualité et l'engagement des joueurs qui fait la différence.
Faux modeste, Carlo, il est malin. Le Real est-il forcément favori à cette question? Eh bien, on va voir, mais pour l'heure, le jingle, c'est le débat du Minuit Info. La discussion. J'ai un duel, j'ai Régis contre Bernard. Le Real est-il forcément favori? Bernard face à Régis. Régis, vous dites oui. Bernard, vous dites non. Bernard, vous l'attendez, vous êtes en contre et tout ça. Celui qui accompagne la question, c'est Régis Testelin. Pourquoi vous les voyez forcément favoris, le Real?
Parce que le quart de finale contre City leur a donné encore plus de certitude et de confiance. Parce que c'est un habitué de ces demi-finales-là, qui a un ascendant psychologique énorme, je pense, avec ce qui s'est passé contre City, qu'il y a énormément de blessés et d'absents au Bayern, 5 incertains, 3 blessés, que la dynamique est clairement pour le Real et que, franchement, en fait, le fait de recevoir au retour à Madrid, en plus, tout est dans leur camp.
On va le faire à l'ancienne. Je tiens les comptes au niveau du chrono. Bernard.
Le duel n'est pas truqué.
Non, il n'est pas produit, il n'est pas truqué. À vous de jouer.
Non, moi, ce qui me dérange dans les titulés, c'est le forcément. Bien sûr que le Real est favori pour tout ce que vient de. Pour toutes les raisons que vient d'énoncer Régis. Néanmoins, le Bayern, ça reste une grande Europe. Alors, certes, il a raté sa Bundesliga, mais il finit très fort la saison. On pensait qu'il allait se faire éliminer face à Arsenal. Et puis, finalement, il a sorti un potentiel futur champion d'Angleterre. Il reste sur 5 matchs, donc 4 victoires en Bundesliga. Et puis, il y a un buteur hors norme, le meilleur buteur en Europe cette saison. 42 buts en 42 matchs. Arrêtez.
Ok, merci beaucoup. Vous avez bien rebondi, mes amis. Une petite panouille en régie, mais vous avez été formidable. Surtout vous, Bernard, qui est un peu parano. Donc, je vous passe la brosse à rôle.
Non.
Le Real est-il forcément favori?
Je dis que l'émission est truquée et on vient d'en voir les démonstrations directes. Et après, tu me dis que je suis parano.
Oui.
Donc, je suis réaliste.
Oui ou non, Rico? Forcément favori pour vous?
Oui, ils sont favoris. Après, la qualification leur a fait un bien fou à City, mais Je pense que le match qu'ils ont fait là-bas, où ils n'ont pas touché un calot. Ils s'en sortent au pénalty, tant mieux pour eux. Leur donne du moral, ils sont toujours confiants. C'est une équipe qui sent dans le groupe être capable de renverser et de gagner. Mais je ne pense pas qu'ils se déplacent là-bas les mains en haut du guidon.
Ah non, mais c'est pas pense, rien, c'est pas
non,
général,
et le Bayern revient quand même. Ah, je joue que ça maintenant. Il y a des joueurs qui sont venus pour gagner aussi des titres. On pense à Harry Kane. Ancelotti revient dans son club qu'il a coaché quand même. Par contre, les statistiques, j'ai vu, Ancelotti avec le Milan AC et le Real contre le Bayern a jamais perdu. Un match. Huit matchs. 2002-2003, les premiers matchs contre le Milan. Moi, j'ai pas jamais perdu. J'ai vu cette stat.
Ouais, c'est Carlo.
C'est Carlo, il a jamais perdu devant le Bayern.
Rarement. Hein,
voilà. Maintenant, je pense quand même que ça va être très difficile. Ça va pas être une promenade de santé. Je
forcément
pense.
Favori.
Bah, une équipe qui élimine Manchester City devient forcément le favori de la compétition. Donc.
C'est le Real en plus.
Oui. Et c'est le Real en plus. Ah, et c'est le Real. C'est pas la petite surprise. C'est pas Leipzig qui sort City, quoi. Oui. C'est le Real qui sort tout le monde.
Et t'es rassuré par le deuxième match que t'as vu du Real
contre City?
Ah ouais. À City. Ah,
plutôt, ouais.
Ah bah pas moi du tout.
Plutôt, ouais.
Et est-ce que t'as vu le
classico?
Est-ce que t'as vu le classico Barcelone Real?
Pourquoi il est rassuré?
T'as été rassuré?
Non, je l'ai pas vu le classico.
Ah bon.
Pourquoi il est rassuré? J'étais au Parc des Princes. Mais ouais, non, je suis rassuré parce que je vois pas beaucoup d'équipes en Europe, voire aucune équipe en Europe capable de résister comme ça, d'encaisser les attaques de City comme le Real l'a fait.
C'est Rocky, quoi.
Et de pas, et c'est un peu ça. Et de pas broncher, finalement. De pas être KO. Et même de porter un coup de grâce, puisque c'est, même si c'est le Real qui a ouvert le score, c'était un peu le coup de grâce.
Enfin, après, le débat sur ce match à City, c'est les intentions. Est-ce que leur intention était véritablement de défendre comme ils l'ont fait et de ne rien faire? Et là, je rejoins Eric.
33 à 100.
Ou alors, est-ce qu'ils ont décidé de faire ça et ils l'ont réalisé à la perfection, comme le dit Damien? Mais j'ai un doute là-dessus parce que ils ont vraiment rien fait pour le coup. Offensivement, ils ont rien montré. Et c'est cette part d'incertitude sur est-ce qu'ils sont capables d'en faire un peu plus à Munich demain.
Donc tu es d'accord avec moi?
Non, je me suis engagé sur la réponse.
Il y a un adversaire qui est quand même complètement différent. C'est-à-dire qu'ils affrontaient City qui était en pleine bourre, qui les avait fait chuter l'an dernier et qui les a amenés au titre suprême qu'ils attendaient tant. Le Bayern Munich, moi je veux bien qu'ils se rebiffent un petit peu en fin de saison, mais en attendant, c'est une saison très chaotique. T'as des absents, t'as Harry Kane qui a un côté chat noir, c'est quand même terrible, je l'adore, mais enfin bon, c'est quand même fou. Le mec qui va au Bayern, tu gagnes chaque année, eh ben non, c'est pas pour lui. Donc forcément, le Real Madrid n'affronte pas un même ogre actuellement. Le Bayern, c'est un club monstrueux, mais actuellement, c'est pas un ogre comme City était un ogre et toujours un ogre.
C'est peut-être pas un ogre, c'est peut-être pas surprise, Karine.
Je te dis pas qu'ils peuvent pas faire quelque chose, mais
le
Bayern d'aujourd'hui,
forcément non.
Excuse-moi, il est pas exceptionnel, loin de là. Ils perdent un paquet de matchs, ils ont des absents.
Sur les absents, juste une parenthèse sur les absents, mais il y a quand même Gnabry qui est pas là, il y a Kingsley Coman qui est pas là, il y a Upamecano qui est incertain, il y a Moussiala qui devrait pas jouer, il y a De Ligt qui devrait pas jouer non plus. Je veux dire, c'est quand même énorme.
Moussiala est dans la compo probable.
Oui, il est dans la compo.
Ce que tu as cité, à part Coman, et encore même pas, il y a que De Ligt qui est un titulaire indiscutable dans l'équipe de Tourelle.
Mais c'est pas la première fois.
C'est pas du tout sûr qu'il joue.
Vous voulez lui dire quoi, Damien?
Non, parce que monsieur Testelin, c'est pas la première fois qu'il nous sort des arguments foireux, mais bon.
Damien, tu nous as dit que le Bayern était donc pas favori face à Arsenal. Je sais pas d'où tu avais sorti ça.
Damien,
qui a dit ça?
Non, dans tes arguments.
Damien, ce que je voulais dire, c'est que Bernard, ça te fait chier que je parle, tu le dis, quoi.
Ouais, c'est pas des gros mots, c'est Karine qui me coupe.
Non,
ça fait 5 minutes, j'essaie de lancer Damien, mais écoutez.
Le Real a perdu juste contre un adversaire cette saison, l'Atlético de Madrid, une fois. Donc si le Real n'est pas un ogre, je sais pas ce que c'est, quoi. Ils ont pas joué que Oviedo, Valladolid et Riron, quoi. Ils ont quand même joué du lourd. Donc pour moi, le Real aujourd'hui est non seulement forcément favori contre le Bayern, mais c'est l'immense favori de la compétition, quoi.
On va vous laisser encore un petit peu voter, Bernard. Bernard face à Real.
Oh, il va perdre.
Le Real est-il forcément favori? Un petit coup d'œil sur la programmation de la semaine. Le débat sur le Paris Saint-Germain, on va y revenir, ça sera dans quelques minutes, mais on va pas parler de l'OM. Jeudi en Ligue Europa, donc face à l'Atalanta Bergame, l'Atalanta qui récupère son buteur.
Oui, Gianluca Scamacca, ça a l'air d'aller mieux pour lui. Est-ce que ce dimanche, eh bien, il y a eu petites histoires comme quoi il pouvait être absent face à l'OM. Il n'en est rien. Il s'est entraîné avec le groupe ce lundi et il est disponible pour affronter Marseille. C'est un joueur important, évidemment, de la DA. Il a inscrit 15 buts cette saison, toutes compétitions confondues, notamment celui-ci contre la Fiorentina, mercredi dernier, qui avait permis à l'Atalanta de rejoindre la finale de la Coupe d'Italie.
Scamacca, qui était une cible du Paris Saint-Germain il y a un an et demi. Et Mike Maignan, de nouveau blessé. Quelques précisions sur l'état de santé de Mike Maignan.
On a eu peur, mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Le gardien des Bleus a été victime d'une lésion aux adducteurs. Le club milanais n'a pas donné la gravité exacte de cette blessure, ni la durée d'indisponibilité. Mais selon toute vraisemblance, l'international français sera bien là à l'Euro. Pour rappel, la liste de Didier Deschamps sera rendue publique le 16 mai prochain. Le premier match des Bleus, c'est un mois plus tard, le 17 juin, face à l'Autriche.
Vous auriez pu vous appuyer sur votre voisin, là,
j'aurais pu.
Damien,
mais
sur le site. Non, mais,
il a une lésion de grade 1. Ouais. Donc a priori, c'est entre 10 et 15 jours d'indisponibilité. Il devrait être de retour pour la 37e journée, l'avant-dernière journée de Serie A. Par contre, il y a un autre problème qui va se poser, pas que pour lui d'ailleurs. C'est que les Milanais partent en tournée en Australie à la fin de la saison pour 4 jours. Ouais. Deux fois 24 heures de vol pour 4 jours, c'est pas mal. Donc ils ne seront pas au premier jour du rassemblement de l'équipe de France le 28 ou le...
C'est un sketch.
Ou le 29 mai, je ne sais plus.
C'est normal ça ? Ouais, c'est légal.
Ouais, c'est logique parce que la date FIFA commence le 3 juin.
Ah oui, du 3 juin, voilà. Ouais. On se prépare pas quoi pour disputer.
Donc voilà, non, mais après on s'étonne que les joueurs sont blessés. Bon, il y a quand même... les clubs font tout aussi pour que ce soit le cas. Et que la FIFA, pour le coup, là, c'est quand même une compétition organisée par l'UEFA, donc une instance qui dépend aussi de la FIFA, ne cale pas des dates
de protection
des joueurs, c'est un peu scandaleux.
Enfin, tu vas me dire, en même temps, Maignan, ça peut lui donner un peu de temps de jeu, sa blessure. Et c'est mieux qu'il joue peut-être une fois avant de le rassembler.
Non, mais qu'il joue, mais il va jouer. Il va jouer au championnat.
Mais tu dis le dernier match.
L'avant-dernier. Bon, ouais, mais enfin, il n'a pas loupé beaucoup de matchs cette saison.
Oui, mais bon, est-ce qu'ils ne vont pas le protéger quand même et pas le faire jouer et prendre le risque?
S'ils veulent le protéger, ils l'envoient pas en Australie.
En Australie, quoi.
Oui, mais moi, je ne suis pas sûr. Bon, verra bien. S'il joue deux matchs au championnat, je te dis oui. S'il n'en joue aucun et qu'il part en Australie, là, il joue un match ou deux, ça peut être intéressant.
Il y a des matchs de préparation avant l'Euro aussi.
Oui, oui.
La remise des prix ce soir, Tanguy, dans le football féminin.
Oui, c'était Tabitha Shawinga, pardon, qui a été honorée meilleure joueuse de Division 1 Arkema. Elle a inscrit 18 buts et délivré 10 passes décisives cette saison. Chez les entraîneurs, c'est Sonia Bonpastor qui a été primée, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. À noter que les nommés au trophée UNFP seront révélés ce mardi dans l'équipe de Greg. Être avec nous de ce mardi.
Ouais, les trophées UNFP, ça sera le lundi 13 mai à Paris, c'est-à-dire dans 15 jours, pile poil, 15 jours. Donc on connaîtra le joueur de la saison en Ligue 1. La sonorisation des arbitres en Ligue 1, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain ou après-demain.
C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les amoureux du football. La sonorisation des arbitres doit entrer en vigueur la saison prochaine en Ligue 1. C'est Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, qui l'a annoncé ce dimanche chez nos confrères de beIN Sport. Ça y est, on a formé les arbitres. Maintenant, il faut qu'on équipe les stades pour qu'il y ait la bonne sonorisation. On va essayer de la mettre en œuvre pour les play-offs féminins. Ça, c'est cette saison. Ce sont des évolutions très positives, a-t-il déclaré.
La sonorisation des arbitres en Ligue 1, on a un débat, enfin, on débat une petite question, révolution au gadget. On a votre...
Complètement contre.
Oui, mais Damien, vous dites, même pas gadget, c'est démagogique. Pourquoi
c'est démagogique ? C'est des évolutions très positives pour qui ? Pour l'amélioration de la compétence des arbitres ? Je ne suis pas certain. C'est démagogique pour celui qui l'annonce, qui est en pleine période électorale et qui, amène ce que les gens veulent. Il leur amène directement dans l'assiette. Donc ça va être génial parce que l'argument que j'entends, que Hugo, par exemple, Guillemet, a utilisé la semaine dernière, c'est que ça va nous permettre de mieux comprendre. On s'en fout, quoi, de mieux. Enfin, d'abord que ça permette aux arbitres de mieux arbitrer, qu'on trouve qu'on crée un environnement qui permette aux arbitres de mieux arbitrer. Ensuite, les arbitres qui sont pas assez bons, mais ils sont rétrogradés. Ils font pas les meilleurs matchs, ou ils vont même en D2 ou en National. Ouais. Voilà. Mais là, on fait quoi? On voulait la vidéo à tout prix. Ça allait changer tout, révolutionner tout. C'est toujours autant le bordel, si ce n'est plus. Qu'est-ce que ça va apporter, la sonorisation?
Tu peux pas dire ça, si ce n'est plus. Bah oui, 90%. Si ce
n'est plus, regarde, on n'a jamais autant débattu de l'arbitrage.
Mais parce que 90%, ça règle des solutions et des erreurs d'arbitre. Ouais. Tous les sports pro américains, le rugby, la vidéo, ça nous permet quand même.
Mais arrête, Eric, avec le rugby. Arrête avec le rugby. Bon. On sort
du
monde.
Basket.
On sort d'une coupe du monde. Ben O'Keefe. Non, mais.
Laisse tomber. De toute façon, vous êtes contre.
Non, mais tu mets toujours le rugby sur la table. Tu mets toujours le rugby sur la table.
Non, mais toi, tu ne parles.
Je te parle d'une situation. Je parle d'une situation très claire.
D'accord, je parle doucement, écoute bien. Les arbitres sont parfois incompétents. Donc, faut les rétrograder. Ouais. Pourquoi pas? Première mesure à prendre de la fédération. Tu peux pas laisser. Il y a une guerre, si j'ai bien compris, entre les arbitres. Il y avait un clan, il y a un mec qui a été viré, je sais plus qui. Ouais. Donc, faut qu'il
règle. À cause de l'utilisation du VAR.
Donc, il faut régler à cause des sanctions, parce qu'on a peur de déjuger. Donc, c'est un problème. Bah voilà. Pas de vidéo. C'est un problème de gouvernance.
On a rajouté un problème.
Au lieu de critiquer sans arrêt la vidéo, il y a un problème de gouvernance. Et après, pour terminer.
C'est pas mal, ça.
C'est une réalité. Et dans tous les sports pro. Au basket américain, français, il y a quand même une compréhension, nous, le téléspectateur. C'est pas les 80 000 mecs que dans le scène. Nous aussi, on a envie de comprendre des choses. Donc moi, je vois pas pourquoi on est contre ça et qu'on dise c'est démagogie.
Eric,
il va être réélu sans ça, de toute façon.
Je donne la main à Bernard Lyon, c'est pas la technologie, c'est l'utilisation.
Non. Pas mal. Non, c'est pas l'utilisation, c'est un problème de consanguinité dans l'arbitrage.
Oui, bah la gouvernance,
je suis d'accord avec Eric, pour une fois. Tout arrive dans la vie.
C'est bien.
Il suffit d'attendre. C'est que, en fait, tu te rends compte que l'arbitrage, ça a bien fonctionné à l'époque où c'était pas aux mains des arbitres. Je me souviens d'il y a une vingtaine d'années, quand c'était Monsieur Piette, Jean-Louis Piette, du Matra Racing, qui avait créé le Conseil supérieur de l'arbitrage. Donc lui, il n'était pas du tout arbitre. Et lui, il avait géré, il avait amené la professionnalisation des arbitres, etc. Donc on n'était pas dans une espèce de marasme, de clan d'entre soi, tu as été international, je te me dispute, machin. Les amateurs, on va changer les notes avec les mecs de la Ligue Provence pour favoriser, tac. C'était en haut et c'était hors arbitrage. Et en disant, voilà, c'est comme ça. Et après, une fois que tu as réglé ce problème de gouvernance, tu leur mets les outils, effectivement. Le VAR, mais encore faut-il les former au VAR, la vidéo, la sonorisation, etc., etc. Sauf que là, ce que je trouve, moi, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout à l'envers. Okay. Donc c'est gadget.
Ok, donc c'est gadget. Wembanyama à Paris pour deux matchs, ce sera la saison prochaine.
Oui, ce sera les 23 et 25 janvier prochains. L'équipe de Victor Wembanyama se posera à l'Accor Arena de Paris pour affronter les Pacers d'Indiana dans une double confrontation alléchante. Là, on le voit, Victor Wembanyama, c'était ce week-end, lors des finales de Coupe de France de basket. Les Pacers sont d'ailleurs bien partis pour éliminer les Bucks de Milwaukee. Ils mènent 3-1 dans leur série.
Passons au tennis avec la troisième victoire de suite pour Rafael Nadal sur terre battue. Et tout arrive à Madrid.
Plus de 3 heures de jeu pour éliminer Pedro Cachin, 91e joueur mondial. Rafael Nadal s'est imposé en 3 manches. 6-1, 6-7, 6-3. Une première manche facilement maîtrisée. Une deuxième beaucoup plus compliquée physiquement avant de batailler dans la dernière. 3 victoires d'affilée. Une première depuis l'US Open 2022 pour Nadal qui affrontera le Tchèque Jiří Leheka, 31e mondial au prochain tour. Il est en haut de l'écran à Rafael Nadal en violet pour conclure ce joli point. En revers, ça fait mouche. La victoire pour Yannick Sinner également, la tête de série numéro 1 du tournoi. La qualification n'a pas été simple non plus contre Pavel Kotov. Succès 6-2, 7-5. On l'a vu, il a sauvé une balle de 7 dans la deuxième manche. Il était mené 5-3. L'Italien sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale et défiera Karen Khachanov, tombeur ce lundi d'un autre Italien, Flavio Cobolli.
Ça tape. Hein. La Transat CIC est partie dimanche de Lorient. Où en est-on au classement?
Plus les heures passent, plus les écarts se creusent. Chez les Imoca, c'est Charlie Dalin qui est toujours en tête sur Massif Santé Prévoyance. Il devance Nicolas Lundvem et Johan Richomme. À la dixième place, on retrouve Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe, qui tente de rester au contact. Les conditions ne sont pas simples, on l'écoute.
Première nuit vantée avec passage de front assez fort en fait. Il y a eu 30-35 nœuds, 38 nœuds max, j'ai vu. Voilà, donc pas trop dormi, pas dormi du tout même, histoire de bien arriver à gérer le front.
Voilà, merci Tanguy. Petite musique.
On a 3 journées de la fin. Le décompte final, nous sommes à 3 journées de la fin. On va étudier le classement à la loupe avec 5 questions sur le classement. Première question, qui sur le podium qui disputera la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, déjà champion. Donc il y a 3 clubs en lice, Monaco, Brest et Lille, qui se disputent la qualification directe. Hein. Voyez-vous Lille glaner une, voire 2 places au classement. Damien, vous avez la main. Vous voyez un petit...
Moi, je vois Lille.
Chamboulement. Ouais, Lille. Doublé qui ?
Brest.
Brest ?
Ouais, moi aussi.
Ouais, aussi ? Pourquoi ?
Parce que je trouve que Brest, depuis quelques temps, depuis que l'histoire du stade se pose, c'est un peu plus erratique, quoi. C'est un peu plus compliqué. C'est pas forcément évident, même si le match contre Rennes aurait tendance à prouver le contraire, mais c'est pas évident de gérer la pression des attentes. Mmh. Et que là, elles sont quand même énormes. Je sais que le calendrier n'est pas défavorable, mais le calendrier est quelque chose auquel je ne crois pas forcément fin de saison. Et Lille est sur une dynamique assez impressionnante avec des joueurs de très haut niveau. Donc, c'est aucune certitude, hein, mais je vois Lille passer devant Brest.
Mon ami Bernard, vous aussi vous voyez. Alors, c'est Brest qui flanche ou c'est Monaco qui flanche? En tout cas, c'est Lille que vous voyez finalement. Hop, termine. Ah ben,
déjà, il faut que Lille finisse très fort et que Brest flanche, non? C'est ça, il faut la conjonction des deux.
Un peu, ouais.
Mais parce que déjà, ils ont fait le plus dur, les Brestois, ce qu'on disait tout à l'heure, là, de la peur de gagner des tennisman, ils l'ont un petit peu eu. Mmh. Enfin, c'est donné cette impression-là. Là, ils font un final, un match extraordinaire dans le derby breton, Roison Park, et ça y est, ils y sont, quoi. Ça y est, ils ont marqué l'histoire. L'histoire de la Ligue 1 et l'histoire de leur club. Ils sont en Coupe d'Europe. Et je pense qu'il y a peut-être y avoir inconsciemment une petite décompression. Et pour avoir un peu vu jouer Lille ces derniers temps, je trouve qu'ils finissent en boulet de canon, quoi. Mm. Et que tu sens qu'ils sont animés par une espèce de volonté commune d'arriver sur ce podium. Ils ont une profondeur de banc aussi qui est sans commune mesure avec celle du Stade Brestois. Donc je les vois finir sur le podium, moi.
Régis, vous voyez que vous, non, rien ne va changer.
Non, je pense que j'ai pronostiqué le statu quo. Mmh.
Pas toi.
Non, mais pour une raison, pour une raison de calendrier, contrairement à Damien. Déjà, il y a un Lille-Lyon. Et je trouve que Lyon, en ce moment, c'est très, très, très difficile à jouer. Le prochain match, c'est Lille-Lyon. Lille finit contre Nice aussi. Ça fait quand même 2 matchs extrêmement difficiles.
Ouais.
Et alors que Brest a quand même un calendrier avec Nantes, Reims et Toulouse qui est assez soft. Et je pense qu'un point d'avance, plus un calendrier favorable, plus la dynamique, plus le fait qu'il reste 3 matchs, dont 2 à domicile, je crois au statu quo. Mmh.
Karine, statu quo ?
Ah oui, moi je suis pas du tout d'accord avec le côté Brest va s'effondrer.
Il y a un point d'écart, j'ai pas dit s'effondrer.
Non, mais sauf que moi je trouve que dans le contenu des
matchs...
C'est
ton côté breton qui
ressort. Comme Eric Roy le disait, toute la saison on s'est dit ça va s'arrêter, ça ne s'est jamais arrêté. Contre Lyon, il n'y a pas de défaite normalement. Alors ok, ils mènent 4-2, ils sont revenus à 4-4, mais au final, il y a quand même des problèmes d'arbitrage. Ce qu'ils arrivent à faire hier en termes de mental, c'est exceptionnel. Lille, ils avaient un match très important contre Monaco, ils l'ont perdu. Mmh. Donc moi, je ne vois pas pourquoi Brest ne serait pas en capacité de faire le nécessaire pour rester 3e.
Deuxième question, pour disputer la Ligue Europa, Nice est 5e. Alors est-ce que le plus dur est fait ? 4 points d'avance sur Lens,
oui.
Quand même.
Régis,
c'est beaucoup quand même 4 oui, points bah d'avance oui. à 3 journées de la fin. Nice, entre la 3e et la 4e et la 6e place, oui, on a l'impression que c'est ficelé pour Nice.
C'est ficelé ? Bah oui. Si c'est ficelé, enfin, on passe.
Ce n'est que mon avis.
Lens, OM, OL, donc pour la Coupe d'Europe, C3 ou C4, soit la Ligue Europa, soit la Ligue Europa Conférence, il y a 3 clubs populaires, Lens, OM et l'OL, qui sont en lice. Premier, il n'y a que 2 places au maximum. Alors, qui va passer à la trappe ? Il y a une inquiétude chez certains chroniqueurs de l'équipe du soir. C'est pour l'OM, Karine, Bernard et Régis. Karine, inquiétude pour l'OM. Pourquoi ?
Oui, j'aurais mis Marseille-Lens dans le même package quand même, parce que je trouve que Lyon, comme le disait Régis, est quand même en pleine bourre. Ils marquent beaucoup de buts, ils ont une confiance incroyable, des renversements de match. Marseille, ce qu'ils ont fait hier, c'est important. Mais c'est vraiment au forceps, ils sont au bout du rouleau, ils ont la Coupe d'Europe en plus, donc pour moi, Enfin, c'est Marseille et Lens qui m'inquiète le plus. Et vu qu'il y a une différence de points, je suis pas sûr que Marseille arrive à prendre davantage de points que les Lensois. Je pense que les deux vont caler.
Bernard, vous avez acquiescé au niveau de la Coupe d'Europe, mais il y a un aménagement du calendrier fait par le Conseil de l'administration de la Ligue, puisque Marseille recevra et accueillera et ira à l'Atalanta Bergame sans jouer le week-end prochain.
Mais ils joueront ces matchs.
Oui.
On les a pas dispensés de matchs, tu me rassures. C'est-à-dire qu'il y en a pour un, il reste 3 matchs, et pour l'autre, il en reste 5. Mmh. Si tout va mal.
Oui.
Si tout va mal. On espère qu'on aura un 6e. Mmh. Et quand tu vois.
Parce que tu vas à la finale en plus.
Et quand tu vois. Oui, je vais voir Milan-Liverpool.
Exactement.
J'ai un ami sur ce plateau que je ne dénoncerai pas qui m'a proposé d'aller voir la finale de la Ligue Europa, Milan-Liverpool. Ouais. Un match.
Il avait le nez.
Une visionnaire du football.
Revenons à Marseille.
Mais ça fait 2 matchs de plus à haute intensité, de très haut niveau, avec une place en finale de Coupe d'Europe, quand tu sais ce que ça représente dans l'ADN de ce club-là. Donc tu vas bouffer énormément d'énergie. En plus, l'Atalanta Bergame, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est une très très bonne équipe. Et que tu as un effectif qui tire la langue en cette fin de saison, quoi. Mmh. Donc je pense que ça va leur coûter leur qualification en Coupe d'Europe. Et puis ils se retrouvent quand même à 2 points de Lens. Et puis Marseille, Lyon, on l'a dit, Lyon, il déroule en fin de saison. Je vois pas comment ils vont pouvoir dépasser Lens et résister à Lyon.
Alors, c'est vrai que c'est admis que l'OL fait une deuxième partie de championnat formidable pour l'Olympique Lyonnais. Lille-OL, ça sera lundi prochain. Eric, vous dites que ce Lille-OL, c'est capital, mais capital pour l'Olympique Lyonnais.
Ben oui, parce que si dans le même temps les autres gagnent, il y a un trou à se faire. Et puis, ils vont 2 fois dehors. Bon, on dit, bien sûr...
C'est Clermont.
Non, mais l'OL va 2 fois dehors.
Oui, Lille et Clermont.
Oui, mais Clermont joue son maintien. Mmh. Et ils ont mis 4-1. Bon, peut-être devant une équipe en roue libre, je suis d'accord. Mais bon, ils peuvent toujours faire quelque chose. Moi, je pense que... Là, on parlait de Lille, qui joue l'un des meilleurs footballs. S'ils battent Lyon, et que dans le même temps, Lens gagne chez lui. Alors, Marseille, tu m'as dit que c'était décalé, j'en sais rien. Gagne, le trou est fait. Et il reste plus que 2 matchs. Et il y aurait 3 points d'écart avec Marseille. Il y en aurait 5 avec Lens. Et ils sont obligés de gagner. Lyon, c'est même pas un match nul qu'il doit faire à Lille. C'est gagné.
C'est comment le goal average entre Marseille et Lyon?
C'est très favorable à Marseille.
Donc, 9, moins 9.
Lyon a un goal average négatif.
Ouais. 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 Parce que moi, je suis d'accord avec Eric. Le déplacement à Lille, c'est compliqué pour Lyon.
Il faut gagner. Il faut gagner.
Il y a le déplacement à Lille. Ensuite, il y aura la perspective de la finale de Coupe de France. Qui peut... peut-être faire que certains joueurs seront un peu sur les freins, on n'en sait rien.
Ou être ménagés.
Ben. Ou être ménagés.
À Lille en plus, non?
Donc, à Lille.
Évidemment.
Moi j'ai un petit doute entre Marseille et. Autant Lens, je pense que c'est bon, ça, tranquille pour eux, mais Marseille et Lyon, les matchs.
Alors, pour disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine via le championnat, Rennes est-il désormais éliminé? Il y a 2 points de retard du Stade Rennais. Sur l'OM et sur l'OL, 4 sur Lens. Karine, vous pensez que les carottes sont cuites pour le Stade Rennais?
Bah oui, je trouve qu'ils ont raté trop de tournants. On l'a encore vu hier, on a entendu Benjamin Bourigeaud après le match. Ils mènent 2-0, 4-4. Finalement, ils perdent encore une fois au Rosen Park. C'est quand même une saison qui est très décevante, moi, je trouve, pour les Rennais par rapport à leur investissement, par rapport au changement de coach, par rapport aux ambitions. Et les comptes sont pas bons pour l'instant, oui. Mmh. Je les vois pas faire une fin de saison boulet de canon.
On a parlé de la formidable saison de Brest il y a quelques minutes sur ce plateau. On n'a pas forcément parlé du Stade Rennais, on n'a pas forcément parlé des autres cadors. Qu'est-ce qui manque au Stade Rennais? La volonté, la personnalité?
Non, il manque la défense. Il manque la constance.
Je trouve pas
une défense.
De l'expérience en défense.
Ah oui.
C'est-à-dire tu as tes à tête.
Théâtre.
On prononce parce que c'est pas un français. Non, je maîtrise pas la langue de.
Il est belge.
J'hésite entre néerlandais et belge. Je veux dire, c'est le seul qui a à peu près 100 matchs en professionnel. Les autres, c'est que des gamins. Alors, tu te trouves avec Highlander, Mandanda et 4 jeunes expérimentés. On l'a vu dimanche avec Omari. Ça les a plombés complètement parce qu'il y a du talent, il y a des compétences, il y a de l'argent. Et je ne comprends toujours pas comment cet effectif il a été bâti, comment cette équipe a été construite. Parce que s'ils avaient un tant soit peu une défense solide avec un ou deux tauliers,
évidemment,
comme dans toutes les défenses.
Ou c'est le départ d'Amari Traoré qu'ils n'ont pas digéré ou pas.
Non, il n'y a pas que Amari Traoré, parce qu'à une époque il y avait Da Silva aussi, pas le plus grand défenseur du monde, mais qui avait l'expérience, qui était costaud. Tu fais un alliage entre des jeunes, il y a des jeunes très très bons, il y a des très bons défenseurs. Au Stade Rennais, il n'y a que des jeunes, donc il n'y a pas d'expérience. À un moment, quand tu vois comment ils se font prendre par Brest, on expliquait, ils ont travaillé toute la semaine, Brest, c'est le circuit de jeu, c'est On passe sur les côtés, on passe sur les côtés, ils travaillent ça. Ils prennent 3 buts sur 4 sur les côtés, sur les centres. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. C'est des honteux. Erreurs de jeunesse.
Il y a un paquet d'erreurs individuelles grossières au cours de la saison.
Direction. Direction à présent, la Ligue 2. On va aller tout en bas du classement. La course au maintien commence-t-elle? On peut peut-être voir le classement de la 14e place occupée par Nantes. Et on va aller jusqu'au dernier, clairement. Où est-ce qu'il faut affiner le tir? Éric Blanc, moi j'aime bien votre lecture du classement.
Nantes, pour moi, Comboiré, l'homme de la situation, au revoir. Ils sont sortis de...
Ils sont sortis 32, ils ont 3 points d'avance sur le Havre.
Et s'ils restent à 32?
Oh, bah, s'ils perdent tout, ils descendent.
Ah, mais t'as vu le tableau?
Oui, mais les autres, ils ont quoi? Tu crois qu'ils ont une promenade de santé?
Non, mais...
Bon, et moi, Nantes, j'y crois parce que Comboiré, il y a des signes. Il a redressé, il a eu peut-être un peu de baraka, mais ils font des matchs nuls là. Ils vont s'en sortir. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Ils ont la capacité. Moi, je vois sincèrement Lorient, Rebelote, je les vois pas jouer comme vous, mais j'ai vu quand même certains matchs. Clermont et Lorient, je pense que ils vont se battre. Oh, mais j'ai l'impression que ça va être un peu figé. Alors après.
Donc, c'est les barrages, c'est Metz ou
Metz,
Le
Havre? Metz-Le Havre, j'en sais rien.
Voilà. La lecture Nantes, d'Éric,
pour moi, ils sont sauvés.
Les carottes sont cuites donc pour Clermont et
Clermont,
pour Lorient.
Clermont, ils en plantent 4 ce week-end à
Reims. Oui, mais Reims est en roue libre totale.
Ils sont quand même à 4 points d'une place de barragiste. À 3 matchs de la fin.
Ce qui risque de les tuer, c'est qu'ils vont à Monaco ce week-end.
Oui, non, mais c'est beaucoup, 4 points déjà. Mais
Et ça fait longtemps qu'ils ont intégré en fait un peu la Ligue 2.
Et leur dernière meilleure victoire, c'est quand?
C'était dimanche.
Là, 4-1, mais avant.
Avant, c'était il y a...
Il y a un mois.
Ouais. Après, c'est vrai que... moi, je suis d'accord avec Eric. Je pense que Nantes... Je crois pas que Nantes reste à 32 points. Et sur les 3 matchs, je pense qu'ils prendront...
Brest-Nantes, Nantes-Lille, Monaco-Nantes.
Il est horrible.
Ouais, mais je pense, par exemple, Nantes est capable de faire un truc.
Oui, mais à l'extérieur, ils sont capables de
verrouiller. Ils sont en train de 3 équipes, d'un groupe étau de 3. Donc, tu enlèves déjà un match. Il n'en restait plus que 2. Il faudrait qu'ils prennent au moins 1 ou 2 points sur les 3 derniers matchs.
Non, mais sinon, prend 1 point à 33, ça passe.
Oui, ça devrait
passer. Pas.
Parce que tu vois le calendrier. Tu vois le malheur.
Tu penses que les trois.
Trois matchs.
Tu penses que Metz-Le Havre, ils vont prendre plus de 3 points.
Non.
C'est ça.
Non, mais à la question, faut-il avoir une lecture intégrale? J'ai répondu oui, parce que.
Oui, bien sûr.
Parce que j'imagine la probabilité que Nantes ne prenne pas de points.
Pourquoi moi je pense que le calendrier a une signification limitée? C'est que quand je vois ne serait-ce que le parcours du Havre. Les deux points qu'ils ont pris, c'est à Lens et au Paris Saint-Germain. Ouais. Entre-temps, ils ont reçu Nantes, 0 point. Ils ont reçu Metz, 0 point. Ils sont à la Clermont, 0 point. Donc,
L'équipe qui m'inquiète le plus, c'est le Havre.
Moi aussi.
Le Havre, ils n'ont jamais été relégués.
Moi, je suis d'accord.
Il y a ça. Ouais. Déjà, ils se sont, même si ils disent qu'ils se sont préparés au maintien, ils ne se sont jamais retrouvés dans une aussi mauvaise position, à un aussi mauvais moment. Que Metz, quand même, quand tu as la capacité à sortir vite à l'extérieur et que tu as un buteur
Nicocadé,
à un moment, ça te rend quand même bien service. Et le Havre,
mais quand même, le Havre qui mène 3-1 devant le superbe champion de France, et tu crois pas en eux?
Non, je crois pas en bras menton.
Il est taqué.
J'ai jamais dit ça, Eric.
Dans quelques minutes.
Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai jamais dit que c'était un super.
Dans quelques minutes, Dortmund, Paris Saint-Germain, on est à J-2, on va tenter d'aider Luis Enrique. A tout de suite, mes C'est la dernière ligne droite de l'équipe du soir. Allons voir du côté du journal L'Équipe, la une de demain. Tanguy, vous nous la présentez s'il vous plaît.
Oui, c'est Luis Enrique et Achraf Hakimi qui sont tout en haut de l'affiche à la veille de cette demi-finale aller face au Borussia Dortmund.
Dans 2 jours, Paris dispute une demi-finale aller contre Dortmund. Donc, quelle sera la compo que va nous concocter Luis Enrique? Alors aujourd'hui, Paris Saint-Germain s'est entraîné dans son centre à Poissy. Indiscrétion Loïc Tanzi qui précise que l'entraînement n'a donné aucun indice sur le 11 de départ. Il y a 2 semaines, Paris illustrait éliminer le Barça avec ce 11-là. Vous le voyez, vous en souvenez, Donnarumma, Hernandez, Marquinhos en charnière. Deux latéraux à leur place, Mendes et Hakimi. Un milieu de terrain extrêmement complémentaire, Vitinha, Ruiz et Zaïre Emery. Et puis une ligne d'attaque que le monde entier nous envie. Barcola, Mbappé et Dembélé. Luis Enrique doit-il reconduire la même équipe qui s'est qualifiée à Barcelone? Damien Degore au tableau.
Moi, je pense. Ouais. Je pense. Je trouve que la défense me plaît. La charnière me paraît être la meilleure vu l'effectif que Luis Enrique possède. Hernandez rassure par son agressivité, rassure Marquinhos, qui redevient le Marquinhos qu'on a aimé voir jouer au Paris Saint-Germain. On a deux vrais latéraux. Alors, avec leur lacune défensive, ce n'est pas les meilleurs défenseurs du monde, mais c'est des vrais latéraux. Et en face, il y aura sans doute Adeyemi et Sancho. Ce n'est pas non plus les meilleurs attaquants du monde. Adeyemi va vite, mais Nuno Mendes aussi. Donc là-dessus, ça devrait aller. L'attaque, je suis pas certain qu'il y ait une meilleure attaque aujourd'hui possible à Paris. Peut-être même si en Europe, on peut en discuter, mais c'est quand même du solide. Mmh. Et au milieu, Fabian Ruiz pour moi est le joueur type de Luis Enrique qui colle à la philosophie de jeu de Luis Enrique avec des courses intérieures, une façon de dézoner qui plaît à l'entraîneur espagnol. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, exit Ugarte, et je trouve que c'est pas plus mal.
Damien, Luis Enrique passe son temps en conférence de presse. Quand on va lui chercher son équipe type, son 11 de départ, choses comme ça, il nous dit, moi, je veux concerner tout le monde. Tout le monde doit avoir l'impression chez mes joueurs.
Mais là, on arrive en fin de saison quand même.
Tout le monde peut débuter. Mmh.
Mais c'est un principe de management chez lui qui vaut pour la saison. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir compter sur tout le monde tout au long de la saison. Maintenant qu'on arrive quand même dans le final, il reste 5 matchs. C'est normal qu'il ait une équipe type pour les grands rendez-vous les plus importants.
On a regardé le temps d'utilisation des joueurs. Combien de joueurs utilisés cette saison à Luis Enrique? Il y en a 29 joueurs, donc qui comptabilisent au moins un match cette saison avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
29 champions de France.
Et puis on a affiné. 19 joueurs du PSG ont joué de plus de 1000 minutes ou plus. 19 joueurs, comme le Bayern, comme le Real. Et comme Dortmund. Alors parfois, Luis Enrique, on se dit, ouais, il fait des compos, il y a du turnover, des choses comme ça. Mais puis il y a les discours aussi.
Le Real a eu une saison avec énormément de blessés.
Ouais, mais 19 joueurs du PSG, comme le Bayern, comme le Real et comme Dortmund, donc ont joué 1000 minutes.
Tu veux dire
plus.
Que c'est très scientifique dans leur exploitation de l'effectif?
Non, je ne sais pas si c'est scientifique, mais généralement, on pourrait dire, tiens, Ancelotti et sa conférence de presse aujourd'hui est là pour en témoigner. Moi, je suis un entraîneur. Moi, je fais rien, façon de parler, mais je ne veux pas me mettre en avant, je ne veux pas inventer des tactiques. Je fais un plan de jeu qui est à peu près ça, et puis c'est aux joueurs d'interpréter, joueurs qui l'interprètent.
Tu parles des temps de jeu, pas des compositions d'équipe, des 11 de départ. Ouais. Parce que Luis Enrique, sa spécialité, c'est de changer de 11 de départ de match à l'autre.
Ah oui.
Après, ce n'est pas une question de gestion. C'est-à-dire que maintenant, avec cette règle du buesque des 5 remplacements en cours de match, je veux dire, les entrants ont des temps de jeu pas aussi important, mais presque, que les débutants. Mmh. Oui, non, mais ça change tout. Ça change toute l'analyse. Donc maintenant, quand tu parles de ça, moi, je suis pas tellement surpris. En revanche, Luis Enrique, les schémas, les joueurs, les machins, ça, c'est autre chose. Mmh. Ancelotti, il change pas tout le temps.
Et pourquoi tu dis 5 changements ubuesques? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on dit que les joueurs jouent trop. Il y a des matchs de plus en plus. Et t'as 23, t'as des effectifs de folie. Heureusement qu'on voit émerger. Et aujourd'hui, c'est vrai que les ordinateurs, et même dans d'autres sports, ont gagné. Le temps de jeu. Et moi, je trouve que, bien sûr, c'est peut-être la part belle aux riches, mais les riches sont ensemble, ils sont aussi riches les uns que les autres dans les compétitions fermées, entre guillemets, de la Coupe d'Europe. Et c'est bien de garder une intensité, de faire tourner. Mais où est votre problème, les footballeurs?
Non, mais alors pourquoi c'est UBS?
Le fameux truc de 5, c'est de la merde.
Non, pourquoi c'est UBS?
Je comprends pas.
Parce que ça fait quasiment la moitié de l'équipe qui peut être changée. Donc
et alors toi, tu préférais qu'on reste à 2 et à 3?
Oui, complètement.
Ah bon, t'es contre le VAR. Mais t'as 34 ans, t'es jeune, tu raisonnes comme une vieille. Non, mais c'est hallucinant. Non, mais tu serais. Tu pourrais être ma fille. Tu pourrais être ma fille, elle a 32 ans, je lui dirais. Change de logiciel, c'est pas possible quand je t'entends. Karine, réveille-toi. Je vais te prendre en stage. Je vais te changer, moi. Je vais te changer et ta vie va changer.
Mais je suis absolument pas d'accord pour les 5 changements. Je suis contre la VAR et je n'ai pas 34 ans. Mais évidemment, le problème de ces 5 changements, ça veut dire que l'entraîneur peut mettre une compo, se tromper dans les grandes largeurs et il a quasiment la moitié de son équipe, de ses joueurs de champ, qui peuvent être changés. Et donc, en fin de match, t'as le gros par rapport au petit qui a toutes les chances d'être broyé également parce que t'as plus de qualité chez le gros que chez le moyen qui a tenu pendant 70 minutes.
Ils sont magnifiques, bref, c'est un pied de nez.
C'est un pied de nez magnifique, mais c'est assez rare.
Bernard, pourquoi c'est...
Et les riches sont riches.
Les 5 changements.
Parce que Eric faisait
en tant que président, avant de lui donner la parole, je réponds quand même. Elle dit, par le biais, c'est son biais. Ouais. Il se trompe d'équipe. Parce que quand Luis Enrique démarre le fameux match, ici, il s'est complètement gouré, il rectifie. Ouais. Ouais. Mais juste une chose, le premier quart d'heure, le Barça est asphyxié. Mais quand ils prennent un zéro, là, il s'est trompé. Mmh. Il change à la mi-temps. On dit, voilà, c'est un coup de génie, ceci, cela. Mais il ne fait pas, Enrique, que des équipes pour perdre et voir et faire... Non, de temps en temps, c'est sa façon de voir le football, de manager un groupe de 23. Mais il peut se tromper. Mais il
peut... normal.
Mais c'est pas se tromper à 100% de temps en temps.
Il n'y a pas que se tromper. Je t'ai expliqué aussi que les petits, en fait, ils ont moins de qualité sur le banc.
Mais j'ai compris. Mais on parle de la Ligue des Champions. Là, ils sont tous riches.
Bernard, je crois que demi-finale. Bernard, c'est votre moment, là. Hop là, faut le prendre là.
Parce que ça avait été une décision temporaire prise pour gérer les conséquences de la pandémie du Covid. Et on s'en aperçoit que ça nuit très gravement à l'égalité des chances dans le sport, donnée à laquelle moi je suis très sensible. C'est-à-dire que tu peux mettre un projet de jeu en place, tu peux inventer quelque chose pour contrarier l'adversaire. À un moment, au bout d'une heure de jeu, tu te prends un rouleau compresseur dans la figure, parce que là où toi, tu as 12, 13 titulaires, les autres, ils ont 18 ou 20.
Ok. Ok, bon, c'est à peu près le même argument de Daniel.
Ouais, les petits. Des bons arguments. Et moi, j'ai pas 34 ans, j'en ai 35.
Donc, Eric Blanc, vous avez les deux jokers.
Et moi, j'ai zéro.
Oui.
C'est-à-dire, le deuxième duel, on n'a jamais eu de résultat. Mais donc.
Mais on sait que t'as perdu.
Voilà, c'est à clic, c'est perdu. Et après, on me dit, c'est pas truqué, c'est pas machin. Voilà.
73-27, vous avez pris.
Mais tu peux me sortir les chiffres que tu veux. Hein.
Non. Je vais pas vous humilier.
Par pudeur et par amour.
Ben non, Régis, il peut pas avoir trois, on a pareil.
Mais non, mais c'est incroyable.
Mais petit le thème, je suis champion de France avec le Paris Saint-Germain.
Très bien.
Ok. Donc 86, 94, et tous les titres de QSI. Ok. Je suis le premier lauréat du trophée UNFP du meilleur joueur en 1994. De qui s'agit-il ?
Ginola.
Ginola, 4 points pour Damien Lopez. Il ouvre le score, Damien. Attention. Je suis champion de France en 1986. Doucement, les bases, j'ai la réponse. Ne vous livrez pas tout de suite. Juste un conseil. Si vous avez une intuition, allez-y, mais...
Suzik.
Ça fait de Suzik ?
On t'a dit de pas y aller.
Merci.
Il faut prendre des risques.
Je suis toujours dans le football. Elle est vicieuse. C'est très vicieux.
Roche.
Alain Roche ?
En 86.
Ah non.
Luis Fernandez.
Luis Fernandez, c'est pas ça non plus. Je commande des matchs chaque semaine.
Ah, c'est qui ?
Ouais. Ouais, voyez Bernard.
Oui, mais moi je joue pas pour un point.
Allez, on me doit la formule... Non, ça, c'était 2 points. Et on me doit la formule suivante. Il lui a fait l'amour sans préliminaire.
Ah oui, Da Fonseca.
Omar Da Fonseca. 1 point pour Karine Galli.
J'élimine Damien Degore.
Ah, directement ? Ok. RTT, Damien, au repos.
Et c'est Eric qui
a les points.
Ah oui, c'est vrai, pardon.
On ne peut pas tricher.
Non.
On ne peut pas faire l'émission, on peut pas.
J'ai terminé 3 fois meilleur buteur de Ligue 1.
Paoletta.
Paoletta, c'est dommage.
Il n'est pas champion.
Mais non, oui.
Jean Weah.
Georges Weah, c'est pas lui.
Ibra, bien sûr.
4 points supplémentaires pour Karine Galli.
Magnifique.
Pour les jokers, les éliminations, non, faites les comptes. Non, vous êtes fair play. Pour le faire.
C'est bon, merci. J'élimine le mec à zéro comme moi à la fin.
Ah oui.
C'est
ma
technique pour pas être seul.
D'accord. Bon, il y a 2 prétendants là. Il y a Bernard et il y a Régis. J'ai joué, mais je n'ai pas marqué ce week-end.
Colomoni. Ah, mais non, il n'est pas champion de France, merde.
Mbappé.
Mbappé, 4 points pour Bernard. Oh. Bravo Bernard. Kylian Mbappé. Je compte plus de 300 matchs avec le Paris Saint-Germain.
Pilorget,
c'est pas lui.
Marquinhos,
non, c'est pas ça. Mon élégance a fait de moi une légende du Paris Saint-Germain. Rail, non.
Ah, si je sais, il n'a pas 300 matchs.
Ça fait de Suzik, bonne réponse.
Tu vois que j'avais raison.
Un peu plus tard, quoi.
Ben oui, mais...
Attention, je compte. 9 titres de champion de France.
Marquinhos.
Eric en 1, Marquinhos, vous êtes éliminé.
Ah, mais très bien.
Tu as dit combien,
Je reviens. Ah, vous revenez.
Combien tu as dit ?
Verratti, 4 points.
Oui, magnifique. Magnifique.
Mais oui, moi.
Super, tu lui as son joker. Oh, Ricky, il est content, là. Hein,
bon, là, il faut que j'élimine, là, parce que.
Ah, oui, alors, on élimine qui, alors ?
Non, j'élimine personne.
Vous n'éliminez personne.
J'élimine Régis. Je veux qu'il reste à zéro ce soir.
Allez.
Qu'il rentre dans sa voiture traumatisé.
Okay. Je suis argentin.
Ah, ça fait beaucoup.
Carlos Bianchi.
Carlos Bianchi.
Di Maria.
C'est pas lui. Di Maria. C'est pas
Di Maria.
Pastore. 4 points.
Oh non, oui, mais
ils sont PSG. Attention, on a le temps. On continue. J'en ai encore 3 au maximum. Je remporte le premier titre de champion de France du Paris Saint-Germain.
Suzic.
86. Suzic.
Batz.
Suzic.
Le Gouen.
Le Gouen, non, le Gouen,
c'est un joueur. C'est forcément un joueur.
Oui, je remporte le premier titre de champion de France du PSG. J'ai été joueur et entraîneur du club.
Louis.
Mais Louis.
Oui, mais ils l'ont dit, on va pas répéter.
Louis Fernandez, 3 points pour Bernard. Elle est épuisette, hein.
Non, mais moi ça m'intéresse pas.
Bah oui, mais l'épuisette, ça marche.
Moi maintenant, quand je suis éliminé, je le dis, comme ça Karine peut pas jouer.
Non, arrête, c'est insupportable.
Attention, j'étais champion de France avec le Paris Saint-Germain. J'ai quitté le Paris Saint-Germain en 2020.
Cavani.
Non, c'est Thiago Silva.
Thiago Silva, non.
Cavani.
4 points pour.
Mais Thiago Silva, il est parti en 2020 aussi.
Sauf que c'est Cavani.
Si, mais c'est pas lui.
C'est nul.
Puis la dernière. La dernière pour la route. On fait les comptes, là. Eric.
Bah, tu peux m'éliminer.
Tu peux jouer avec Christian ou de regarder ton iPhone.
J'ai récemment battu un record.
Marquinhos.
Non, j'ai dit en premier.
Allez, je te le
dis. Karim Niali.
Rien du tout.
4, voilà, bon, c'est Damien. C'est Damien qui gagne. Bon, il n'y a qu'un perdant, en fait. C'est notre Régis.
Ah, je l'aime bien, mais bon.
Bah ouais, voilà. Dans votre voiture, ça va être comme ça, là. Vous allez.
Je vois un coup. Avec Bertrand Latour.
Ah, c'est vrai?
Oui.
C'est vrai? Ah, vous êtes après l'entrée, alors. Ok. Si on vous passe cette musique, c'est depuis aujourd'hui. Vous auriez pu mettre. Bah, remarquez, Greg Hacher, c'est un peu Mitch, c'est un beau gosse. Hein. Mais toutes les après-midi, maintenant, on fait Alerte à Malibu, Baywatch, voilà, du lundi au vendredi. Donc on se quitte avec cette jolie musique, et puis à vos maillots, donc tous les jours de la semaine. Donc c'est Baywatch, c'est Alerte à Malibu, tous les jours sur la chaîne L'Équipe. On vous embrasse. Demain, il y a une soirée spéciale également, Ligue des Champions, comme après-demain. On vous embrasse. À demain. Ciao.